Radio BLB, reportage.
Nous l'avions reçu en septembre pour l'école de la vie, expo photo à la médiathèque La Passerelle à Bourg-lès-Valence. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Leroy qui vient pour nous parler de la quatrième action humanitaire au Cap Vert pour l'association Regarde ailleurs. Jean-Philippe Leroy, bonjour.
Bonjour.
Il y a donc quelques temps, nous vous avions reçu pour une expo photo à La Passerelle à Bourg-lès-Valence, la médiathèque. Et aujourd'hui, vous nous revenez pour une autre action. C'était la quatrième action humanitaire au Cap-Vert pour l'association Regarde ailleurs. Cet engagement, on va faire un léger retour en arrière, il tient à quoi ?
Il tient à une rencontre qui a été faite en 2005 avec la population capverdienne lors d'un voyage à but photographique, donc de reportage en fait de vie quotidienne au Cap-Vert. Et suite à ce premier voyage, je dirais, à orientation photographique, avec les rencontres et la gentillesse des gens que j'ai pu constater, j'ai décidé de monter une action d'aide envers ces gens, donc de façon minime, en utilisant la photographie comme ressource donnant possibilité d'obtenir des financements. Aujourd'hui, on revient d'une quatrième action. Deux premières étaient des actions, je dirais, un petit peu basiques. On essaye de travailler de plus en plus maintenant avec les représentants du gouvernement capverdien, notamment du ministère de l'Éducation et maintenant du ministère de l'Agriculture, pour essayer de trouver des solutions, notamment alors initialement en termes de matériel scolaire, et maintenant les projets sont en train de muter plus vers de l'aide qui est de l'aide plutôt alimentaire, donc à la fois bien entendu en ressources alimentaires, mais aussi en travaillant sur des projets d'autosuffisance alimentaire, de façon à ce que les écoles puissent produire un peu de nourriture au quotidien pour pouvoir créer en fait une cantine dans chacune des écoles. Aujourd'hui, pourquoi on est en train de muter sur ces projets, parce que le PAM, donc le Programme Alimentaire Mondial, va sortir du Cap-Vert à partir de 2010. Donc en fait, cet organisme qui fournit les denrées de base à toutes les écoles du Cap-Vert, donc notamment riz, l'huile, le sucre, le sel et les haricots secs, va arrêter son aide à partir de 2010. Donc aujourd'hui, il est relativement important de travailler sur des solutions pérennes pour pouvoir notamment aider au financement de solutions d'autosuffisance et puis essayer de gérer cette transition le mieux possible. Je dirais qu'aujourd'hui, on est déjà presque pressé de trouver des solutions. Donc en fait, en fonction des zones géographiques et des îles, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont plus ou moins bien préparés à cette sortie en fait.
Économiquement, le Cap-Vert aujourd'hui se situe comment ? C'est un pays en voie de développement, c'est un pays pauvre, très pauvre, c'est le Burkina Faso.
Alors aujourd'hui, en fait, pourquoi le programme alimentaire sort du Cap-Vert ? Parce qu'il est économiquement reconnu non plus comme un pays pauvre, mais comme un pays en développement. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que le tourisme grandissant au Cap-Vert a quelque peu modifié la ressource économique du pays. Et aujourd'hui, les chiffres du tourisme qui a explosé depuis 10 ans au Cap-Vert, qui est essentiellement développé sur deux îles du Cap-Vert, a, à mon avis, sensiblement fait changer les chiffres et l'économie. C'est vrai qu'il y a un développement du Cap-Vert, mais toute la population capverdienne ne récupère pas en fait les bénéfices de tourisme qui est développé par la majorité des étrangers en fait. Donc aujourd'hui le programme alimentaire il sort. Au Cap-Vert on n'est pas en Éthiopie non plus. Je dirais que on est sur un pays pauvre avec peu de moyens, avec peu de ressources. En fait l'objectif des actions humanitaires et des actions que nous on essaye de mener dans notre association, c'est d'essayer de trouver des solutions pérennisables et essayer de ne pas faire de l'assistanat. Même si aujourd'hui on finance du matériel et de la nourriture, on essaye de travailler sur les solutions qui vont permettre de les aider et de les aider de façon pérenne.
Alors vous, en ce qui vous concerne, sur le terrain, concrètement, vous servez à quoi ?
Alors nous sur le terrain, on sert à beaucoup de choses en fait. J'ai un exemple alors qui est pas forcément réalisé sur cette année, mais que j'ai pu voir concrètement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a un rôle bien sûr d'aide et on a un rôle d'écoute, de recueil de besoins. C'est-à-dire que nous, on est une association humanitaire de bonne volonté. On a un peu de ressources, un peu de moyens. On a envie que ces ressources et ces moyens soient utilisés à bon escient et soient utilisés avec les besoins terrain, quoi. C'est-à-dire que on veut pas imposer nos projets, on veut donner nos idées et les confronter avec le besoin réel. On a un exemple l'année dernière où on a servi de médiateur, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un projet d'obtention d'un terrain pour faire un jardin potager dans une école. C'est-à-dire qu'on était sur une zone relativement propice à la culture des légumes et des fruits. Et il se trouve que cette école qu'on aidait depuis 3 ans n'avait toujours pas de jardin potager. On les avait incités à en faire un étant donné que les ressources étaient bonnes en eau et en terre. Et il s'est avéré qu'il y avait un problème en fait entre le propriétaire du terrain, le directeur de l'école, etc. Donc nous, on a dit, on va servir de médiateur sur cette problématique-là et essayer de rentrer en relation avec le propriétaire pour pouvoir comprendre pourquoi il ne voulait pas prêter un bout de terrain à l'école et voir si nous, on n'avait pas la possibilité d'avoir un bras de levier du fait qu'on avait une présence depuis 3 ans dans l'école en disant, nous, si vous voulez qu'on continue à aider l'école, il va falloir faire une concession au niveau du village et au niveau des propriétaires. Donc, je passe un petit peu les détails, mais on a obtenu, en fait, donc on a compris qu'il y avait des problématiques de dialogue, de communication comme nous, on peut les avoir chez nous, entre le ministère de l'Éducation, le propriétaire et le directeur de l'école. Il s'est avéré qu'en fait, fait, on a pu obtenir le terrain. Le propriétaire a donc accepté de prêter le terrain pour une durée indéterminée à l'école. Et du coup, ça a déclenché une aide du ministère de l'Agriculture pour financer un système de goutte à goutte. Nous, on a financé les premières semences. Et aujourd'hui, le jardin potager de l'école, il tourne. Et j'ai pu le visiter il y a 15 jours, en fait, lors de mon voyage. Donc, c'est quelque chose qui tourne. On a ce rôle de médiation, bien entendu. Et on a aussi un rôle, bien entendu, de support, d'aide au développement de certains projets, bien entendu, de distribution de matériel scolaire, comme on l'a fait jusqu'à l'année dernière. Cette année, on n'en a absolument pas fait. On a uniquement travaillé sur des problématiques alimentaires, notamment avec le ministère de l'Éducation de l'île de Saint-Nicolas, où on a travaillé avec les responsables du PAC, donc c'est les responsables de la nutrition à l'école, qui nous ont orientés sur des besoins et des solutions pour préparer la sortie du programme mondial alimentaire. Et il en ressort qu'aujourd'hui, il y a une problématique au Cap-Vert, c'est le stockage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur des zones poissonneuses, donc où il y a pas mal de pêche. Par contre, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de système de stockage. Alors même si on peut faire sécher du poisson, on ne peut pas faire sécher tous les poissons. Et la durée de conservation d'un poisson séché, elle n'est pas infinie. Ce qui a été travaillé lors des réunions préliminaires au ministère, à la délégation du ministère de l'Éducation, c'était de dire, nous, on a un problème de stockage, on n'a pas les moyens de financer des congélateurs. Donc ça serait bien de pouvoir commencer à travailler sur le financement des congélateurs, de façon à ce que, quand la quantité de poissons ramenée par les pêcheurs est importante, le coût du poisson est très très faible. Ce qui permet, avec la contribution des parents, qui est une somme d'argent donnée tous les mois, d'acheter une quantité de poisson relativement importante et de le stocker dans les congélateurs. Donc le projet, il a été un peu réfléchi pendant une semaine avec ces personnes-là. L'idée a été de dire, faut qu'on finance un premier congélateur à la direction du ministère de l'Éducation, un grand congélateur qui va permettre de stocker une grande quantité de nourriture qui va être distribuée par les responsables de la nutrition de l'île. Donc on a financé ce premier congélateur, entre autres de ce qu'on a mis dedans, mais on a financé ce premier congélateur. Et l'idée, c'est de continuer à en financer d'autres dans les écoles, congélateurs de plus petite capacité, et prioritairement dans les zones qui sont des zones de pêcheurs, de façon à ce que les écoles puissent acheter du poisson, le stocker et commencer à être un petit peu autonomes sur la gestion de l'argent qu'ils disposent, en fait, pour pouvoir faire une cantine et un repas chaud chaque jour. Ça a été un premier travail qui a été fait. Bien entendu, on est venu ici, donc on a acheté ce premier congélateur, mais on a aussi financé de la nourriture. Donc on a acheté une cargaison de poisson, environ 200 kilos de poisson a été acheté et congelé dans ce congélateur. On a également travaillé une semaine pour trouver des propriétaires de cochons, de façon à acheter un cochon vivant, de le faire abattre pour pouvoir bénéficier d'un tarif intéressant au niveau de la viande. Donc on a acheté deux cochons, donc ça c'était une expédition assez marrante parce que j'ai fait du porte-à-porte pendant une semaine pour pouvoir trouver un propriétaire qui puisse me vendre un ou deux cochons. Après il a fallu négocier les prix, etc. Donc ça c'était intéressant. On a financé bien entendu un certain nombre d'autres choses, donc aussi de la viande séchée, des pâtes et du matériel hygiène, notamment brosse à dents, dentifrice, produits de nettoyage. Aujourd'hui on a financé donc un premier congélateur qui va servir à stocker du poisson. On a financé un premier recharge de nourriture qui devrait alimenter les 10 écoles qu'on a sélectionnées avec les responsables du ministère les plus nécessiteuses. Ça devrait pouvoir fournir le complément nutritionnel jusqu'à la fin de l'année scolaire sur 10 écoles sur cette île-là. Bien entendu, on a projeté bien d'autres choses en fait pour développer des projets pérennes, donc notamment toujours travailler sur le développement de jardins potagers dans les écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien développé sur l'île de Saint-Nicolas, sur l'île sur laquelle on a fait le plus gros projet. Et moi, j'ai mis aussi sur la table et discuté un petit peu avec les gens quelles étaient les possibilités de faire de l'élevage de porc au sein d'une école et pourquoi pas même de poules pour pouvoir générer des œufs et de la viande. On est sur des projets un petit peu plus pérennes qui devraient, en fonction de la réorganisation, je dirais, des cantons et des zones scolaires, a mis en place une commission pour discuter différents sujets de cet ordre-là. Donc nous, on sera présents pour aider le développement de ce genre de projet. Ensuite, concrètement, donc c'est vrai qu'on a travaillé sur un projet sur l'île de Saint-Nicolas, qui est une île qui est très très peu aidée aujourd'hui par les organisations et les associations humanitaires. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur cette île-là, notamment sur l'île de Saint-Antan, où on a travaillé beaucoup plus les trois premiers projets. C'est une île qui reçoit déjà quelques aides humanitaires, même si on pourrait aussi leur en donner. Aujourd'hui, on essaye de ne pas faire de la redondance et d'aider, un peu plus largement, de façon à ce que tout le monde puisse recevoir un petit peu quelque chose. On a malgré tout fait un petit projet sur l'île de Saint-Antan, qui nous avait été soumis par la délégation du ministère de cette île l'année dernière. Il s'avère qu'il y a trois écoles très très isolées en fait sur cette île qui ont des grosses difficultés, notamment de localisation puisque très très isolées, des gros problèmes d'eau et des gros problèmes nutritionnels également. Donc on a travaillé sur un projet donc là d'aide alimentaire, donc on a acheté de l'alimentation également pour ces trois écoles qui devraient tenir au mois de juin. Et après on va essayer de travailler sur le développement donc de jardins sur ces zones-là qui vont être des choses un petit peu plus compliquées puisqu'il n'y a pas d'eau, les terrains sont pas forcément propres propice. Donc on travaille sur des solutions aussi pour développer des choses sur ces zones-là.
Ça signifie, Jean-Philippe, que vous êtes parti sans appareil photo ?
Alors bien entendu, si, je suis parti avec 3 appareils photo. Effectivement, cette année, j'ai très peu consacré de temps à la photographie, à l'immersion du regard. J'ai fait beaucoup plus de photographies d'illustration pour illustrer le projet de l'association. J'ai eu la chance de participer au carnaval capverdien. J'ai fait quelques photos de carnaval, mais je dirais que c'est vrai que cette fois-ci, le projet photographique a été un petit peu amputé par le projet humanitaire.
Comment fait-on pour avoir des informations plus précises sur ce projet humanitaire ?
Vous pouvez donc nous contacter directement par téléphone au 06 61 44 41 07 ou consulter notre site internet qui est relativement mis à jour assez souvent, http://regarde.ailleurs.free.
Quatrième action humanitaire au Cap-Vert pour l'association Regarde Ailleurs. Nous étions en compagnie de Jean-Philippe Leroy.